Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Bonjour, bonjour à tous, il est 13h07, nous sommes le dimanche 17 décembre, c'est Motors, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport mécanique. Dans 3 semaines, le 40e Dakar s'élancera de Lima au Pérou, ce sera évidemment la grosse actu du mois de janvier, mais nous on va vous en parler dès aujourd'hui. Bruno Famin, le patron de Peugeot Sport, sera notre invité tout à l'heure. Auparavant, on va vous proposer une émission en forme de bilan, c'est la saison hein, qui veut ça. Thomas Laurent sera avec nous en tant que révélation pilote français endurance de l'année, mais oui. Et on essaiera de vous proposer un top 10 pilote 2017, toutes disciplines confondues. Un exercice pas forcément facile. Mais je vous propose de commencer par analyser nos tops et nos flops en matière de F1. Alors pour cela, j'accueille avec plaisir Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour LFB, bonjour à tous.
Et je suis très bien entouré puisque bah voilà, c'est Noël avant l'heure. Louis Amar est en studio avec nous. Salut Louis.
Salut LFB, bonjour à tous.
Ah, dis donc, deux des trois membres de la Dream Team F1 de RMC avec moi. Bah, je suis flatté. Allez, on commence donc avec le premier jeu, j'ai envie de dire, de la journée.
RMC Motors dans le rétro.
Voilà, la première rubrique, c'est dans le rétro, c'est pour passer donc un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé en Formule 1. C'est pour jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé en Formule 1 en cette année 2017. Donc, Jean-Luc et Louis, je vous propose d'analyser, de s'amuser à analyser nos tops et nos flops, sachant que la règle du jeu est la suivante, les tops et les flops, c'est moi qui les ai un petit peu déterminés, et c'est vous qui allez les commenter, d'accord ?
C'est une dictature ton affaire.
Non mais, je précise les règles du jeu, parce que si je disais à Jean-Luc, un des flops de l'année, c'est les pénalités qui s'accumulent et qui fait qu'on savait plus où
on annule le reste de l'émission, bah voilà, et on est jusqu'à 14h.
Et ben voilà, et on parle que ça, voilà, ça va voilà. Très bien.
Donc ça, c'était un flop évident, et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, je me suis amusé à faire 5 tops et 5 flops, et c'est vous, messieurs, qui allez nous les commenter. Alors, je le dis tout de suite, on va commencer par les tops. Les deux premiers, j'ai pas pris de risque. Ça me semble un peu incontournable de quand même mettre à l'honneur Lewis Hamilton en tant que premier top, et Mercedes en tant que deuxième top côté constructeur. Jean-Luc, là, on a quand même le sentiment que rarement peut-être un pilote aura autant symbolisé un petit peu son sport, et par rapport à la Formule 1, la fraîcheur, le statut un peu de star que développe Hamilton, là c'est parfaitement d'adéquation avec son époque. Est-ce que tu l'analyses comme ça aussi ?
On va la faire brève. Oui, elle est faite. Bon, écoute, je vais quand même développer un petit peu. Évidemment, quand on signe 11 pole positions sur les 20, quand on signe 9 victoires, quand on termine évidemment le championnat avec cet avantage, avec 363 points, donc exactement contre 317, bah oui, il a dominé la saison. En plus, comme tu le dis, il dépasse son sport. C'est peut-être le seul, ou quasiment le seul, effectivement, on en pense ce qu'on en veut, mais avec sa présence assidue sur les réseaux sociaux, oui, c'est peut-être, moi aussi, le Mostar, il est un peu galvaudé, mais disons, c'est peut-être le pilote de Formule 1 qui dépasse son genre, puis 4 fois champion du monde quand même, il faut le rappeler, et c'est pas rien. Donc effectivement, bah, je suis d'accord avec toi, oui.
Bon, Louis, toi qui l'as côtoyé tous les week-ends de Grand Prix, est-il aussi quelqu'un de top à côtoyer et interviewer, par exemple?
Ça dépend des jours pour Lewis Hamilton, pour te dire la vérité, parce que il peut être extrêmement loquace, de bonne humeur et bon client, sortir même des phrases magnifiques. Je peux t'en sortir une comme ça après une qualif à Bakou. On lui demande le samedi à quoi va ressembler la course du lendemain, et il nous regarde et il nous répond, mais c'est comme me demander de décrire une œuvre d'art avant de l'avoir peinte. Voilà, ça c'est du Lewis Hamilton. Après, il y a aussi des jours où il est dans la monosyllabe, c'est-à-dire il va garder ses lunettes de soleil, regarder un peu ses pieds, ne pas vous répondre, et en fait ça c'est quand il est mécontent de ses propres performances. Là où je suis d'accord avec toi sur le top, au-delà de ses résultats, c'est parce que cette année il a vraiment été mis à l'épreuve par Sébastien Vettel pendant la première partie de saison, et il a fallu se relever, se redresser durant la deuxième, et ça c'est une victoire de champion, parce que sur les 6 premiers Grands Prix après la reprise, donc à partir de la Belgique, il en a remporté 5, là où ça comptait vraiment, et là où il savait qu'il avait un retard à faire sur Sébastien Vettel. Enfin d'un mot, au sujet de Mercedes, dans les tops, Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'une écurie parvient à conserver un titre alors qu'il y a eu un changement de réglementation. Mmh. Ça veut dire que les Mercedes, les ingénieurs Mercedes ont parfaitement compris comment jouer avec cette nouvelle réglementation, quelle voiture il fallait construire, même si elle a été difficile à sortir son potentiel absolu à 100%. Eh bien, finalement, Mercedes y est parvenu et ça signe une belle victoire encore.
Effectivement, notre deuxième top, Jean-Luc, difficile de ne pas mettre Mercedes à l'honneur. Mais c'est vrai qu'on se souvient de la domination outrageante de Ferrari dans les années 2000, avec le trio, on va dire, Schumacher, Todd et Brown. Est-ce que pour toi, c'est du même niveau là ce qu'est en train de faire Mercedes depuis quelques saisons?
Écoute, pas tout à fait. Alors, il a bien raison de le souligner, Louis, parce que c'est vrai que c'est un exploit qu'a réussi l'équipe Mercedes avec ce changement absolument radical de réglementation. Ça prouve que cette équipe est extrêmement puissante et qu'elle est capable de s'adapter et extrêmement rapidement, qu'elle est très forte et qu'elle domine son sujet. Maintenant, et Louis l'a très bien rappelé également, la première moitié de la saison a été bien partagée et il faut rendre hommage à Ferrari. Je suppose que tu vas nous en parler un petit peu plus loin,
mais
je ne sais rien. Donc,
c'est peut-être pas ce que tu crois en plus.
Je
te réserve la surprise.
Alors écoute, oui, pour enfoncer le clou, bien sûr, Mercedes est l'équipe à battre aujourd'hui. Elle termine donc largement en tête du championnat du monde constructeur. Et surtout, elle a marqué à 4 reprises le plein total de points, c'est-à-dire les 43 points significatifs du doublé, hein, puisque les points de la victoire plus les points de la deuxième place, alors que Ferrari ne l'a fait qu'à une reprise, faut quand même le dire, et c'était en Hongrie. Donc effectivement, Mercedes largement dominatrice. Et alors, ce qu'il faut souhaiter pour l'intérêt du championnat, alors moi, pas la manière de Ferrari, je dirais, pour plusieurs bonnes raisons. Tu me connais, vous me connaissez tous, parce que c'était vraiment c'était assommant, quoi, la domination de Ferrari, je vais oser le dire. Pourquoi? Parce que les deux pilotes n'avaient pas le droit de se battre à l'époque chez Ferrari, et on sait bien que les équipiers de Schumacher devaient tous se coucher devant Schumacher. Ça n'est pas le cas devant Hamilton, et Bottas a quand même décroché des victoires et des pôles, 4 pôles, il faut le rappeler quand même, et 3 victoires. Donc Bottas, il a fait ce qu'il a pu, même s'il a eu, c'est vrai, un passage à vide.
Oui, justement, là aussi on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Bon, mais ce sera un peu de la provocation, mes flops, j'annonce déjà la couleur. Bon, je continue les tops. Gély comme 3e top de l'année, c'est Esteban Ocon. Voilà, alors c'est à la fois pour évidemment mettre un petit coup de projecteur sur nos forces françaises, mais j'estime, je crois, je pense vraiment que ce qu'a fait Esteban Ocon, 18 fois sur 20 dans les points, c'est exceptionnel. Louis, es-tu d'accord avec ça?
Absolument. L'importance d'être constant, ça n'est pas simplement une pièce de théâtre d'Oscar Wilde, c'est aussi le résumé de la saison d'Esteban Ocon. 18 fois sur 20 dans les points, absolument. À part Monaco, où c'était son premier Grand Prix qu'il disputait là-bas, on a le droit à l'erreur. Et au Brésil, où il est sorti après un accrochage avec Romain Grosjean, un accrochage dont l'autre Français, Grosjean, a d'ailleurs été par la suite rendu responsable par les commissaires. Donc oui, la saison d'Esteban Ocon, elle est magnifique. On a presque envie de dire presque parfaite, justement, parce que lui se fixait comme objectif un podium. Il l'a frôlé, il lui a manqué une 15aine de tours par exemple au Mexique pour y arriver. Il n'a pas été loin, c'est peut-être la seule ombre au tableau de cette saison. Il l'achève à 13 points de son expérimenté et vicieux équipier Sergio Pérez.
Oui, bah là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Jean-Luc, alors on attend d'un pilote qu'il soit rapide, c'est la vitesse qui normalement prime dans ce sport. Mais pourtant là, j'ai envie de mettre en avant la constance d'Esteban Ocon, c'est compatible.
Ah, c'est totalement compatible. Ben, il a les deux. C'est ça qui est formidable. Et moi, je te dis, là où il m'a le plus étonné, je vais citer Monza, par exemple, c'est que quand ça a très, très bien marché pour lui, grâce à des qualifs formidables sous la pluie, hein, il faut le rappeler, et ça, c'est quand même un critère également qui est très important, en tout cas, à mes yeux, parce que on sait qu'il y a effectivement un lissage des performances mécaniques sous la pluie. Donc, les grands pilotes se révèlent presque toujours sous la pluie. C'est le cas d'Esteban Ocon qui la souhaite. On va dire un tout petit mot, tu me permets de les associer, c'est le cas de Pierre Gasly aussi, qui souhaite évidemment la pluie pour lui permettre de briller. On en revient à Ocon. Oui, il a la constance et il n'est jamais au-dessus de ses pompes. C'est vraiment l'expression qui convient. Il commet très très peu d'erreurs tout en étant extrêmement rapide. Alors oui, pour que le bilan soit parfait, il aurait fallu qu'il devance peut-être un tout petit peu plus souvent Pérez. On sait bien que c'est l'objectif. On a eu l'occasion avec lui de discuter avec lui. Esteban était dans les studios d'RMC dans la semaine, donc il le sait maintenant. Il y a le podium comme objectif, et puis dominer Pérez. Et s'il fait les deux, bah là, ce sera vraiment carton plein en 2018.
Quatrième top sur les 5 que j'ai retenu. Alors là, il s'agissait de trouver, d'élire le Grand Prix de l'année. Et je crois, alors Louis, on a déjà parlé ensemble, on est d'accord. Donc Jean-Luc, tu vas nous dire. Moi, je vous propose de nous remettre dans l'ambiance de celui que je trouve avoir été donc le meilleur Grand Prix de l'année. Nous étions le 25 juin 2017. Et je vous laisse donc revivre en quelque sorte l'ambiance qui régnait à Bakou.
C'est parti. Et Lewis Hamilton a pour l'instant réussi son envol. Il va devoir résister à Valtteri Bottas au premier virage. C'est fait, Lewis Hamilton toujours en tête. Valtteri Bottas toujours deuxième, juste derrière son équipier.
Ah, puis il a joué le jeu jusqu'au bout. Là, Hamilton, il s'est laissé totalement décrocher hein, du safety car, quitte à remonter plein pot. Et voilà, on a éteint, mais il va devoir freiner. Non, ça y est, le safety car a quitté la piste. C'est le vrai départ. C'est reparti avec une attaque peut-être de Pérez sur Vettel tout de suite, hein, Louis.
Il est passé très furtivement devant Sébastien Vettel. Sergio Pérez en effet, mais l'Allemand de Ferrari a réussi à reprendre la deuxième position qu'il occupe toujours derrière Lewis Hamilton qui lui ne s'est pas fait piéger.
Radio de Lewis Hamilton.
The safety car and safety car line one. Trust me, it wasn't.
Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Et c'est l'ingénieur de Lewis Hamilton qui lui dit que c'était chaud au niveau du règlement.
It will not affect the way I race.
Ça n'affectera en rien ma façon de courir. On cherche toujours les points faibles de ses rivaux. Et là, je crois que c'est clair, j'ai trouvé celui de Vettel.
Incroyable, il n'y a pas de calcul, on rase les murs. Et désormais, Bottas, Vettel et Hamilton tiennent en une seule image. La réalisation nous les montre avec beaucoup d'à-propos. Parce que ces trois-là vont se livrer une bataille incroyable. Alors que Bottas n'a toujours pas renoncé à une deuxième place potentielle. Il vient encore de prendre du temps à Lance Stroll dans le premier secteur. Lance Stroll a tourné en 37-2, Bottas en 36-7.
Alors quelle bagarre, quel effort. Lewis Hamilton qui allume envers le premier secteur, il donne tout ce qu'il a, ça y est, il est à moins d'une seconde maintenant de Sébastien Vettel.
Daniel Ricciardo, lui, est dans le tour du sacre, dans le tour de la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Il n'était plus monté sur la première marche d'un podium depuis le Grand Prix de Malaisie l'an dernier, et le voilà, le drapeau à damier qui s'abat sur Daniel Ricciardo, l'Australien qui l'emporte. Attention à ce que Lance Stroll va réussir à passer. Bottas devant, Bottas incroyable, Bottas est deuxième, il est passé devant Lance Stroll sur la ligne, incroyable remontée, mais Lance Stroll conserve quand même une place sur le podium, c'est fou, ça a été fou jusqu'au bout.
Bon ben Louis, t'étais bien là, hein, il n'y a pas de doute.
Ça y est, j'ai retrouvé ma voix, mais il a fallu 6 mois quand même.
Alors ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, 25 juin 2017, Jean-Luc, es-tu d'accord pour notre choix, c'était pour nous le meilleur Grand Prix de la saison?
Ah bah oui, 20 fois oui. Écoute, tu vois, je vais pas nous décerner des fleurs, ce serait très, très malvenu, mais quand t'entends ça, oui, bah oui, tu te dis forcément c'est un Grand Prix passionnant, indécis jusqu'au bout, qui a été mouvementé pour toutes les raisons qu'on sait, qui a dépassé même le cadre du Grand Prix en lui-même, sur un circuit totalement atypique. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous deux, puisque Louis a déjà donné son assentiment. C'est vrai que c'était un Grand Prix absolument formidable, et puis en plus, bah on a changé au niveau évidemment du vainqueur, hein, avec Ricciardo. Ouais. Donc c'était génial, ça nous a donné un vainqueur différent jusque-là des vainqueurs Mercedes et Ferrari dans cette étape.
Oui, Lance Stroll, le jeune Canadien sur le podium, qui aurait peut-être pu être deuxième à quelques millisecondes près. Et puis bah cet accrochage hein, pendant une neutralisation entre Vettel qui a pété les plombs. Enfin, je sais pas quel terme maintenant faut employer, mais c'est vrai que ça a été un des éléments déterminants de l'année, hein, mine de rien. Hein. Sur le moment, on a bien senti que c'était important. Mais après, ça a eu une importance.
Ça a installé le duel Vettel-Hamilton dans une autre dimension, parce que jusqu'alors la guerre que se livraient ces deux-là était une espèce de guerre en dentelle. On se renvoyait les compliments à chaque victoire, on disait ah, Hamilton a été bien meilleur, et Hamilton de répondre non, c'est Vettel qui a été bien meilleur, c'était gentil. Et puis ensuite on est passé vraiment dans une autre dimension, la bagarre a repris ses droits, et c'est sur ce mode-là d'ailleurs qu'on est allé jusqu'au bout de la saison. Voilà.
Bon allez, le temps file vite messieurs, je voulais juste vous dire le cinquième top j'avais mis, c'était la vitesse. On est allé plus vite cette année que les années précédentes, Jean-Luc, donc là c'est quelque chose dont on peut se satisfaire quand même.
Oui, le but est atteint. Écoute, on voulait redonner de la performance à la Formule 1. Je pense qu'on n'est pas loin des meilleures performances jamais obtenues en Formule 1. Donc, d'un mot, je sais qu'on est pris par le temps. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Écoute, et je crois qu'on attend une seconde et demie à deux secondes d'amélioration encore l'an prochain à cause des nouveaux pneus et du travail des équipes. Donc,
mais
c'est parfait.
Tu as vu pourtant que le Halo, ce fameux système qui est d'ores et déjà pour nous un flop, mais ça, on en reparlera l'année prochaine, rajoute peut-être 14 kilos hein, au poids de la monoplace. Donc, ça va, a priori, évidemment, alourdir, mais aussi ralentir. Donc on gagnerait avec les pneus notamment, mais bon, ce halo, il y a des contraintes qu'on avait peut-être pas soupçonnées. Bon, on verra ça.
C'est un coup de 3-4 dixièmes. Ouais, hein, ils ont l'air de dire.
Bah oui, quand même. Hein. Ouais. Bon, allez, les flops. Alors là, je l'ai joué provocateur. Voilà, je vous le dis. Donc c'est vous qui allez répondre, messieurs, parce que je me suis amusé à trouver des flops qui font office un petit peu quand même de provocation. Donc Jean-Luc, est-ce que Ferrari cette année, c'est pas un flop quand même?
Ben voilà. Oui, ben, regarde comme t'as annoncé la couleur. Ben, non, là, moi, je réponds non, parce que Ferrari a fait une de ses meilleures saisons depuis longtemps, s'est battu pour le titre, donc on le sait bien, jusqu'à la reprise. Alors, il y a eu des erreurs, oui, de Ferrari, mais oui, de Vettel aussi. Tu devrais mettre le flop pour Vettel également, parce que
ben, il a commis des erreurs. C'est un peu induit, oui.
Et, Et oui, il a été déstabilisé. Donc, comme je sais que c'est provocateur, bah, je vais aller dans ton sens. Comme on n'a pas gagné, c'est le premier des perdants, hein, le deuxième. Mm-hmm. Mais bon, ils ont démontré de beaux résultats. Et puis, bah, j'espère surtout que la bagarre va se poursuivre avec Red Bull en plus la saison prochaine. Et bah, j'ose le dire. Oui, ce serait bien que Ferrari mette un petit peu un terme aux victoires, la série de victoires de Mercedes. Voilà.
Bon, ok, Louis, je me tourne vers toi. Parce que moi, mine de rien, j'ai passé mon année, je te le dis, à regretter Nico Rosberg. J'aurais pas cru forcément ça possible, mais j'ai regretté cette année sa prestance, son look, et le fait qu'il ait quand même battu Lewis Hamilton l'an dernier avec la même voiture dans la même équipe. Or, j'estime que Valtteri Bottas, à ce niveau-là, a un petit peu failli. Alors je sais bien qu'au dernier moment, il a été appelé, qu'il y a plein de raisons, mais Valtteri Bottas est-il un flop?
Pour moi, non. Bon, pour moi, clairement, okay. Non. Valtteri Bottas n'est pas un flop. Il a certes pas été au niveau de Nico Rosberg, mais le défi était quand même difficile à relever en étant appelé au pied levé à le remplacer après son titre de champion du monde. Il a tenu en respect Lewis Hamilton pendant la première partie de saison. Il a signé des pole positions. Il a remporté des victoires, Valtteri Bottas. Alors, c'est vrai qu'il a un petit peu disparu à partir de la reprise, à partir du Grand Prix de Belgique. On l'a moins vu. Peut-être aussi qu'il y a des consignes de course et que la lutte pour le titre s'intensifie. Priorité était donnée, c'était bien logique, à Lewis Hamilton. Il n'empêche que je trouve que pour une première saison dans une équipe de pointe, Valtteri Bottas s'en est pas si mal sorti que ça. Il a remporté d'ailleurs le dernier Grand Prix de la saison, ce qui est peut-être un signe pour la suivante.
Bon, bah tu as été un très bon avocat de Valtteri Bottas. Le troisième flop. Alors, on va écouter quelque chose pour nous mettre dans l'ambiance et puis Jean-Luc réagira.
On est en deux pilotes qui poussent vraiment pour avoir un résultat, qui poussent pour être là. Lui, il est dans aussi une période critique de sa carrière, quoi. C'est maintenant ou jamais. Tout ça, ça fait que ça met un petit peu de pression et de rivalité. Moi, j'ai pas la pression, moi, je vais très bien. Ça fait plus de 40 courses en monoplace de suite que je finis. Je suis champion d'Europe de Formule 3, champion du monde de GP3. C'est plus de titres que lui, il a jamais gagné.
Damage. Right rear puncture.
Have a little look again.
Voilà, même la presse internationale, hein,
c'est
ému de
cette
relation.
Bilingue.
Oui, tout à fait. Et il commente, tu commentes mieux en anglais qu'en français, on te l'a dit ça déjà.
Bravo, c'est sympa les gars, bravo. Regardez-vous, allez-y, rendez des
enquêtes. Alors, nous avons tressé des louanges tout à l'heure à Esteban Ocon. Mais moi, je m'interroge sur la relation entre lui, Esteban Ocon, et Sergio Pérez, son coéquipier. Est-ce que le fait que ces deux coéquipiers dans la même équipe se sont parfois heurtés, est-ce que ça n'est pas quand même un flop, cette relation Pérez-Ocon? Jean-Luc.
Mais non, c'est un top, okay. Tu me voyais venir, évidemment. Heureusement qu'on a ça, je vais te dire, parce que ça nous met de l'animation. Écoute, d'abord, bah, deux équipiers qui, comme ça, se poussent en avant l'un l'autre. Enfin, je te dis, à chaque fois, on fait référence à ça, mais ça fait rien, je vais le refaire. Prost Senna, tout le monde s'en rappelle. Donc, Ocon-Pérez, évidemment, c'est pas pour le titre de champion du monde, parce qu'ils n'ont pas le matériel. Va savoir si les deux étaient chez Mercedes ou chez Ferrari, ce que ça aurait pu donner. Donc, moi, je trouve ça génial. En plus, il y a quand même, au fond, et on en a parlé avec Esteban aussi cette semaine, un respect. Bon, les deux veulent la même chose, hein. Ils veulent sortir de là, être le meilleur de Force India et un jour grimper dans le baquet de la Mercedes. Bah, c'est complètement normal. Ça nous anime la saison. C'est génial. Alors, effectivement, ça a un peu borduré, mais si tu veux, heureusement qu'on a ça. Sinon, la Formule 1 serait parfois bien triste. Donc, bon. Moi, je trouve ça génial.
Ok. Voilà. Bon, alors, je sens que vous allez quand même être d'accord avec moi sur le quatrième flop. C'est Honda.
Ah oui.
Honda, c'est un flop.
Oui. Triple oui, quintuple oui, décuple oui, bien sûr. Honda, c'est 18 abandons sur casse moteur ou perte de puissance en 3 saisons. Ça fait 6 par saison. C'était la patate chaude du paddock, en quelque sorte. Tout le monde voulait s'en débarrasser. McLaren, d'abord, qui a essayé de ne plus être motorisé par Honda. Sauber avait signé un contrat avec Honda. La première tâche de Fred Vasseur, quand il est arrivé à la tête de Sauber, c'était d'essayer de casser ce contrat sans que ça lui coûte trop cher. Résultat, c'est Toro Rosso qui récupère le bébé pour la saison prochaine. C'est pas forcément la meilleure nouvelle du monde pour Pierre Gasly.
Ok. Et Jean-Luc, je te laisse conclure avec ce que j'avais noté comme étant peut-être le cinquième flop de l'année. C'est toujours cet état des lieux de pyrrhie, des pneus en Formule 1. Est-ce que j'ai raison de le dire? Est-ce que après tout les pneus tiennent, font leur office, c'est-à-dire qu'ils tiennent un Grand Prix? Mais moi j'estime qu'il n'y a pas de différence vraiment entre tous ces pneus, que les tentes ça tient, les super tentes ça tient aussi. Qu'est-ce que t'en penses toi?
Écoute, je suis d'accord avec toi, puis c'est devenu beaucoup trop complexe là, avec 9 qualités de gomme, si je ne m'abuse, plus les pneus plus et les pneus intermédiaires, c'est du délire total. Alors maintenant, on va voir le rose clair, le rose pâle, le rose bonbon, le rose moyen.
Ça, il y a bon, plein de couleurs.
Du délire absolu. Moi, je pense qu'il faudrait simplifier outrageusement tout ça avec 2 pneus carrément. Et tu sais, c'est la vie généralement des pilotes. Un très tendre et un dur moyen qui permettent de faire la course, et après on choisit sa stratégie, on n'est pas obligé de passer les 2 pneus, et là on aurait des stratégies hyper ouvertes avec pourquoi pas 4 ou 5 steams, tu vois, au taquet avec des pneus super tendres, et puis d'autres qui géreraient au contraire avec un réglage adapté. Ça nous fournirait au contraire un suspense absolument formidable. Alors tu sais que la hantise de Pirelli, quand t'es manufacturier unique, évidemment t'enfiles des titres constructeurs comme des perles, et d'ailleurs constructeur, manufacturier, pilote, enfin ce que tu veux. Mais ça n'a pas de valeur puisque t'es le seul à conquérir. Donc le problème, il est là, on le sait bien. Et la bataille au moyen, si on réouvrait à Goodyear ou à Michelin ou à je ne sais qui, ce serait absolument génial, évidemment. Mais on sait que... Donc voilà, faut simplifier tout ça. Voilà pour répondre à ta question. Et la hantise de Pirelli, c'est de voir un pneu éclater comme sur la Ferrari, tu t'en rappelles, de Vettel, au bout de la ligne droite à Zellweg. Donc on veut à toute force éviter ça. Donc on fait des pneus en bois, tendre, en bois d'Okoumé, en bois machin moyen. Voilà, c'est tout.
Bon, et ben voilà, tu as terminé en beauté nos tops et nos flops de la Formule 1 2017 avec toute la rédaction qui s'est mobilisée. Merci messieurs de m'avoir rejoint pour commenter ces tops et ces flops. Et effectivement, l'intersaison a déjà commencé. On continuera évidemment de balayer l'actu F1 avec toujours par exemple le baquet chez Williams qui n'est toujours pas officiellement donné. Hein.
Et Kubica,
j'ai l'impression que Kubica c'est loin d'être fait, même l'inverse. Ouais. Bon, hein, on en reparlera après les fêtes. Merci Jean-Luc, merci Louis.
Salut,
à bientôt.
Bonne émission.
Oui, restez avec nous dans cette émission parce que là, on va accueillir 2 invités prestigieux dans quelques secondes.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Allez, on est toujours à fond à 13h31 et on va accueillir 2 invités dans Motors.
RMC Motors.
120.
Le briefing.
Le briefing avec Thomas Laurent qui est avec nous en direct. Salut Thomas.
Bonjour à tous.
Tu nous entends bien. Oh, je sens que tu es en déplacement.
Ça... Oui, tout à fait.
Bon, écoute Thomas, alors on va faire vite parce que on voulait te mettre à l'honneur. Si on fait un bilan de l'endurance hein, cette année, marqué évidemment par l'épreuve phare chaque année, c'est les 24 heures du Mans. Eh bien, nous t'élisons comme la révélation française de l'année et comme le pilote donc qui mérite une sorte de récompense virtuelle que nous te décernons maintenant comme le pilote français d'endurance 2017. Es-tu content qu'on te remette ce prix virtuel?
Oui, tout à fait, oui, c'est un honneur.
Bon, bah, c'est gentil. Alors, tu as 19 ans, Thomas, et tu as crevé l'écran, tu t'es révélé au monde entier le dimanche 18 juin dernier, pendant les 24 heures du Mans, où dans la matinée, tu étais en tête des 24 heures du Mans, avec des protos qu'on appelle de la catégorie P2, c'est-à-dire pas les grands monstres, hein, comme les Toyota ou les Porsche, mais c'est bien toi qui étais en tête de la course. Est-ce qu'honnêtement, Thomas, tu as cru à un moment donné que tu pouvais, que tu allais gagner les 24 heures du Mans?
Ah, honnêtement, je savais qu'on allait passer en tête de la course. Donc j'étais dans la voiture à l'heure actuelle. Et j'avais fait mes calculs au préalable et je savais que malheureusement la Porsche numéro 1 allait nous remonter environ 3/4 d'heure à 1 heure avant la fin de la course. C'était ce qui s'est passé. Mais on n'a pas cherché à se battre contre la LMP1. Oui. On a juste cherché à assurer notre place de premier en catégorie, ce qui était déjà historique pour nous et magnifique pour le team. Et voilà, c'était une récompense juste incroyable pour nous et on en est fiers.
Oui, parce que d'accord, t'as perdu la victoire, mais t'es quand même monté sur le podium des 24 heures du Mans. Hein. Tu termines 2e de la course au classement général.
Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'une LMP2 monte sur le podium du général. Et donc je suis plutôt content d'être l'un des premiers à monter dessus.
Mais sur le moment, t'as su garder la tête froide, ça tu nous le confirmes.
Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais, on n'était pas là pour se battre contre la LMP1. Alors oui, si on pouvait gagner la course, on l'aurait fait, mais il aurait fallu taper dans la machine et après 22 heures de course, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc ça aurait été dommage d'abandonner pour une casse qui n'aurait pas dû arriver alors que...
As-tu conscience, Thomas, que ton irruption là au plus haut niveau du sport automobile français est assez exceptionnelle? Nous, on te connaissait de l'intérieur comme un champion du monde de karting français, hein, c'est pas tous les ans non plus, donc fallait le faire, c'était en 2015. Mais là, te voir à ce point-là briller en endurance, c'est vrai que ça a bluffé tout le monde. T'as une explication? C'est du talent pur ou il y a autre chose pour toi?
Non, c'est tout un lot. J'ai eu la chance d'être très bien entouré déjà de mes parents, des sponsors, de personnes très impliquées dans ce programme. Et puis j'ai eu surtout la chance d'être repéré par David Cheng et pouvoir faire la pyramide de l'endurance, c'est-à-dire commencer en LMP3 en Asian Le Mans Series, puis continuer en LMP3 en ELMS, donc en European Le Mans Series. Mm-hmm. Chevaucher la LMP2 en Asian Le Mans Series l'an dernier et puis cette année en LMP2 en championnat du monde. Donc voilà, c'est vraiment la pyramide de l'endurance et je pense que c'est pour ça que je réussis entre guillemets dans le milieu.
Bah écoute, hein, tu peux vraiment être fier de toi. 19 ans, Thomas Laurent. Bon, 20 ans bientôt, mais quand même encore 19 ans, originaire de La Roche-sur-Yon. Tu as été pilote au sein de l'équipe de Jackie Chan, hein, cette année, le fameux acteur-producteur chinois bien connu mondialement. Tu as fait des essais avec la Toyota. Juste un dernier mot. Tu as piloté une P1 là à Bahreïn en essai d'après saison. C'était quoi comme expérience?
Oui, tout à fait. J'ai conduit la Toyota LMP1 avec un fameux Monsieur Alonso à mes côtés, ce qui était pas rien comme pointure, donc c'était vraiment une expérience incroyable pour moi de rouler avec lui, mais encore plus de rouler dans une LMP1 puisque c'était mon rêve cette année, et donc voilà, c'était juste incroyable. Les sensations sont complètement différentes d'une LMP2 et c'est ce que je recherchais un petit peu pour 2018, donc voilà, on verra où le vent me porte en 2018.
Bon.
Mais voilà, très bonne expérience chez Toyota en tout cas.
Bon, ben on ne doute pas que tu mérites de progresser effectivement dans les hiérarchies de l'endurance encore plus. Donc tu nous tiens au courant, hein, dès que tu pourras nous officialiser et nous confirmer ton programme 2018. D'accord, Thomas?
Pas de souci, avec grand plaisir.
Ok, allez, bon, bonne route à toi. On te laisse continuer ta route, mais à très bientôt, je n'en doute pas. Salut, Thomas. Voilà, Thomas Laurent, hein, mesdames et messieurs, retenez bien ce nom en forme de double prénom. C'est franchement là, tout à l'heure on rendait hommage à Esteban Ocon et puis Pierre Gasly, voilà les petits nouveaux de la Formule 1 côté français. Ben, je peux vous dire que Thomas Laurent en endurance, c'est du même niveau proportionnellement parlant. Allez, on enchaîne avec Bruno Famin qui était avec nous, le patron de Peugeot Sport. Bruno, bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour et merci de vous rendre disponible pour nous. Bruno, c'est très sympa parce que j'imagine que bah, vous êtes un peu dans le compte à rebours, ça y est, qui a commencé par rapport au Dakar, car il s'agit bien de cela. 6 janvier, 20 janvier, le 40e Dakar, le 10e à se dérouler en Amérique du Sud. Hein, ce sont des chiffres que vous connaissiez déjà, Bruno. Ça vous touche d'ailleurs, ces côtés un petit peu symboliques là, d'une épreuve aussi mythique que le Dakar, avec ces chiffres, 40e édition, 10e en Amérique du Sud?
Bien sûr, ça nous touche parce que c'est des vrais chiffres. Je veux dire, ça alimente aussi cette légende qu'est le Dakar, cette institution maintenant. Donc 40e édition, on est très fiers d'y participer, bien sûr.
Voilà, donc vous en faites partie et, bah, j'ose le dire, vous en êtes quand même les favoris. Alors est-ce que j'ai raison de l'affirmer à ce point-là, Bruno, ou pas?
Bien sûr que non.
Je m'en doutais.
Non, mais faut pas confondre le rôle de favori et l'objectif qu'on s'assigne, compte tenu des résultats précédents et compte tenu de la préparation et de l'ambition de Peugeot, bien évidemment, on y va pour gagner, c'est très clair. Maintenant, on s'attend à une course extrêmement compliquée et nos adversaires vont être redoutables. Et la course, avant tout d'ailleurs, va être très longue et très difficile. Donc difficile d'endosser totalement ce rôle de favori, parce que la course va être tellement ouverte que il va se passer énormément de choses.
Et oui, alors vos deux adversaires principaux, bah c'est Toyota et, alors je sais pas comment vous la qualifiez, la troisième équipe, vous dites Mini ou vous dites l'équipe X-Red, parce qu'on sait pas trop ce que sont ces buggy là.
Bah c'est le team X-Red, hein, clairement, mais qui représente la marque Mini et qui est une émanation de BMW Motorsport,
hein,
donc ça a clairement, même si c'est un team, ça a clairement un statut d'usine.
Ouais, alors vous Peugeot avec des magnifiques, j'ose le dire, 3008 DKR Maxi. Voilà l'appellation officielle. on arrive au bout, je dirais, du concept, parce qu'on sait aussi que c'est votre dernière participation, Bruno. D'ailleurs, oui, même avant de parler de la voiture, oui, faut que je vous pose la question. C'est sûr et certain, c'est votre dernier Dakar en tant que participation là de Peugeot cette année.
Oui, absolument, c'est sûr et certain. Ça sera ce Dakar 2018, marquera la fin de ce programme Rally Raid, qui aura connu quatre participations au Dakar. Et deux au Silkware Rally aussi, hein, qu'on a remporté en 2016 et 2017.
Ouais, l'autre grand rally raid un petit peu de référence. Mais alors, pourquoi en fait vous allez vous arrêter après 2018?
Pourquoi? Parce que la vocation du sport automobile, c'est d'accompagner la promotion de la marque, donc Peugeot, et de ses produits. Donc avec ce programme Rally Raid, nous avons accompagné la grande offensive SUV que Peugeot a menée ces dernières années avec la 2008 puis la 3008. Donc nous avons gagné en 2016 avec la 2008 DKR, on s'est triplé en 2017 avec la 3008. Le Dakar se déroule en Amérique latine avec une très forte notoriété mondiale. Le Silkway visait plus le marché russe et surtout chinois, qui est extrêmement important pour nous aussi, et où les SUV sont en plein boom également. Donc voilà, on a accompagné cette offensive-là, et maintenant on va passer à une autre offensive qui s'annonce pour la fin de la décennie, c'est l'électrique, et c'est pour ça qu'on va basculer sur le rallycross et le rallycross électrique à l'horizon de 2020.
D'accord. Donc les initiales à apprendre maintenant, WRX, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle globalement.
Championnat du monde rallycross,
oui.
Absolument.
Avec une épreuve emblématique en France qu'on connaît bien, du côté de l'OEAC, enfin même à l'OEAC, début du mois de septembre chaque année. Donc là, c'est ça le nouveau programme de Peugeot Sport juste après le Dakar. Hein, c'est ça, c'est le feu d'artifice là en quelque sorte pour le Dakar avant de basculer vers le rallycross. Hein, c'est bien ça, Bruno.
Exactement. On est déjà bolidé sur le programme de rallycross avec un début de saison qui aura lieu mi-avril à Barcelone.
D'accord. Alors, Stéphane Peter-Ancel, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Cyril Desprez, voilà vos quatre pilotes titulaires et évidemment leurs copilotes qui seront avec eux. Difficile de faire mieux a priori, vous avez une super équipe.
On a une super équipe, on en est absolument très fiers. N'oublions pas leurs copilotes respectifs, puisque la navigation est vraiment essentielle dans une course comme celle-là. Donc on a vraiment quatre équipages et quatre équipages qui seront, on l'espère, bien évidemment, en mesure de se battre pour la victoire.
Voilà, alors je vais quand même poser la question qui vous sera reposée 3502 fois d'ici au départ du Dakar, mon cher Bruno, mais enfin bon, vous me la pardonnerez. Est-ce que vous ne préféreriez pas que Sébastien Loeb l'emporte?
Moi, ce que je préférerais, c'est gagner.
Bon, ok.
Et c'est loin d'être fait, comme on le disait. La course va être très longue, très difficile. On a vraiment des gros moments forts. On va attaquer très, 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 très fort avec des étapes de dunes d'emblée. Il va y avoir une étape de marathon de près de 1000 km de secteur sélectif. On va avoir l'étape dite Super Fiambala avec beaucoup de navigation, beaucoup de sable encore. Et puis, un long chemin encore jusqu'à l'arrivée à Cordoba. On parlait des équipages. On a magnifique équipage absolument, mais la concurrence, on a un ou deux qui sont très très bons aussi. Hein. Je pense à Nasser Al-Attiyah par exemple, et Mathieu Baumel, qui ont remporté la coupe du monde de tout terrain de Rally Raid en 2017. Donc voilà. Après, c'est extrêmement difficile de faire des pronostics sur une course comme ça. Essayons d'abord de gagner. Moi, si j'ai une voiture en haut du podium à Cordoba, je serais extrêmement content. On n'est pas dans une domination absolue. Loin s'en faut. Et il va se passer beaucoup, beaucoup de choses sur ce Dakar 2018.
Ouais, j'imagine. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça se passe dans un premier temps avant de voir comment éventuellement agir. Est-ce que vous diriez que comme Le Mans, dont on a parfois le sentiment que c'est le cas, Le Mans choisit ses vainqueurs? Je repense à l'édition 2016, quand Toyota abandonne au dernier tour, on peut penser que Le Mans a décidé que Toyota ne gagnerait pas. Bon, est-ce que vous pensez que le Dakar choisit ses vainqueurs aussi, finalement?
C'est un peu ça aussi, quelque part. J'aime bien cette formule-là, mais pour croire à la chance, à la malchance, je ne sais plus qui disait, il n'y a pas de malchance, il y a que des éléments qu'on n'a pas su maîtriser, et certains ne sont pas maîtrisables, donc surtout sur un Dakar. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre les 24 heures du Mans et le Dakar, parce que ce sont des courses d'endurance, des courses très longues, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a une inconnue en plus sur le Dakar, c'est que au moins, quand on a des pilotes qui font les 24 heures du Mans, on sait par où ils vont passer, en général. Il y a 13 km, 600 et quelques à faire.
Oui.
Dakar, on ne sait jamais où les équipages vont réellement passer. C'est plein de pièges partout. Donc les aléas sont encore plus nombreux.
Bon, bah en tout cas, tout ça nous met bien l'eau à la bouche et on a hâte déjà d'être au départ de ce 40e Dakar, voilà, qui s'élancera le samedi 6 janvier de Lima. Bah, je vous souhaite un bon voyage et une bonne épreuve, bien sûr, hein, Bruno, et on va suivre ça attentivement. Vous pensez bien. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Voilà, Bruno Fama, le patron de Peugeot Sport, qui était en direct avec nous. Allez, je vous l'avais promis en ouverture. Dans quelques instants, on s'est amusé à faire cet exercice, on va vous donner notre top 10 pilotes 2017. Toutes disciplines confondues. À tout de suite.
RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Alors, on vous avait promis un petit jeu pour terminer cette émission. Le top 10 pilotes, toutes disciplines confondues. C'est Benoît Boutron qui va m'aider à réaliser ce top 10. Salut Benoît.
Salut LFB, salut à tous.
Alors, tu as fait ton top 10.
Exactement.
J'ai fait mon top 10 et on va comparer. Hein.
C'est totalement subjectif, hein. On vous le dit tout de suite.
Ah bah oui, bien sûr.
Bon, on va confronter nos avis.
On va voir ça.
RMC Motors. World Champion. Radio Paddock.
Et avant de démarrer donc ce fameux top 10 pour célébrer cette fin d'année, on voulait rendre hommage un peu particulier à Johnny Hallyday, évidemment, qui nous a quitté la semaine dernière. Johnny Hallyday, fan d'automoto et qui a participé à de nombreuses épreuves. Tu vas nous en parler, LFB, notamment le Paris-Dakar, évidemment.
Mais oui, et oui. Alors, évidemment, on arrive un petit peu après la bataille, ça on va pas le nier, mais c'est vrai qu'il y avait des liens entre Johnny Hallyday et le sport automobile, donc ouais. on le dit rapidement. Tout a commencé en 1966 quand Johnny a acheté une Ford Mustang car il voulait faire du rallye et il a fait effectivement le rallye Monte Carlo.
Incroyable.
67. Alors ça, là, je crois qu'honnêtement, peu s'en souviennent. Il était copilote et il a fait aussi des courses à Montlhéry cette année-là. Et il avait marqué de sa présence le pesage, c'est l'opération qui précède les 24 heures du Mans, où on pèse les voitures, on les vérifie. Des 24 heures du Mans 67. À l'époque, on était en plein duel Ford-Ferrari et il était venu soutenir effectivement l'équipe Ford. Donc, il y avait déjà cette première identité. Et ensuite, il s'est tourné vers les rallyes raids.
Voilà.
Alors, il y a eu le rallye du Maroc et le rallye du Tunisie en 2001, où il était le copilote d'André Boudou. Et André Boudou, tu sais qui c'est, Benoît, c'est le père de Laetitia, sa femme.
Exactement.
Hein, c'est aussi ça, le double lien en quelque sorte entre Johnny Hallyday, sa famille et le sport mécanique. Et puis alors toi-même, tu t'en souviens,
Dakar, donc au début des années 2000, avec cette phrase mythique, j'étais assez surpris, tu ne la connaissais pas.
Je me souviens plus.
Mais du vrai Johnny Hallyday dans le texte, alors à l'arrivée d'une spéciale, écoute.
Tu crois que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça, LFB?
Bah, je dis que je m'en souvenais plus, effectivement.
C'est vrai que quand tu t'arrêtes 1h15, bah, t'arrives 1h15 après. Forcément.
Oui, bon, et bah, écoute, sacré Johnny, il était avec René Mage sur un Nissan Terrano T2.
Bah, il a fini.
Oui, voilà. Non, mais respect, hein, quand on fait le Dakar.
C'est toujours un exploit de terminer le Dakar, hein, surtout dans le monde amateur. Il faut toujours le signaler.
Bon, bah, c'était notre petite parenthèse Johnny Hallyday, mais voilà, on a réussi à trouver un petit angle un petit peu original.
Alors, passons à notre top 10.
Oui.
LFB, ce qu'on se disait, on devrait avoir sensiblement les mêmes pilotes.
C'est du direct, mesdames et messieurs. Hein. Je ne connais pas le top 10 de Benoît et tu ne connais pas mon top 10. Donc on va le comparer.
En revanche, l'ordre ne sera pas forcément le même.
Oui.
Bah, donne-moi celui qui arrive en 10e position en classement.
Juste dernière précision. Il s'agit, selon moi, évidemment, des meilleurs pilotes de l'année.
Oui, voilà.
Mais peut-être aussi des plus importants ou de ceux qui représentent quelque chose, qui sont incontournables aussi. Tu vois ce que je veux
dire? On s'appuie sur les chiffres, mais pas seulement. C'est totalement subjectif et notamment, on parle de l'image des sports auto. Ça reste important, notamment pour le grand public.
Alors, moi, je commence 10e. Joseph Newgarden.
Celui-là, je l'avais pas.
Ça, je m'en doutais. Bon, Joseph Newgarden, c'est un Américain, jeune, 22 ans, 23, je sais plus, mais enfin, qui est le champion IndyCar 2017. Voilà. Le champion de la Formule 1 américaine mérite d'être dans mon top 10, dans un top 10 pour moi, sport mécanique.
On aurait mis Pagenaud s'il l'avait été. L'an dernier, mais.
Voilà. Mais là, cette année, c'est Joseph Newgarden qui a réussi à subtiliser le titre à Simon Pagenaud, donc je le mets en 10e position.
Eh bien, moi, j'ai mis Valentino Rossi.
D'accord.
Pas forcément pour les performances, puisqu'il n'a pas été sacré champion du monde de MotoGP. Tout simplement pour son courage et pour sa longévité. Il va bientôt avoir 40 ans, Valentino Rossi. Il a souffert d'une fracture tibia péronée cet été. Il est revenu quand même pour les Grands Prix moto, les derniers Grands Prix de la saison. 38 ans, nonuple champion du monde moto. Il sera là l'année prochaine. Ça reste une légende vivante de son sport. C'est lui qui attire du public dans tous les circuits du monde. Donc, je voulais rendre hommage à Valentino Rossi et je ne pouvais pas l'écarter de ce top 10.
Eh ben, je l'ai aussi dans mon classement.
Ah, tu l'as aussi.
Oui.
Mais je l'ai plus haut. C'est ça que
je l'ai plus haut. Tu vois, même plus haut, toi. En 9e, je mets Esteban Ocon. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Sébastien.
Eh ben, regarde. Moi aussi, 9e place, Esteban Ocon.
Bah, écoute, tout simplement parce qu'il est est le futur de la F1 française au niveau pilote, même si évidemment Pierre Gasly, Romain Grosjean sont toujours là, mais Esteban a vraiment quelque chose, qu'il a réussi cette année un exploit exceptionnel pour une première saison pleine de terminer 18 fois dans les points, pas parce que toute la panoplie est là quoi. Donc
une régularité hallucinante, la guerre avec son copilote, ce qui a beaucoup animé la saison de Formule 1 effectivement. Très bonne saison chez Force India et oui, je l'avais noté, un seul abandon pour Esteban Ocon, ça reste
Sinon l'autre fois il est quand même à l'arrivée mais il est pas dans les points, mais
un pilote très très régulier.
Non, c'est prodigieux et on parle de lui déjà pour éventuellement être pilote Mercedes dans deux ans,
l'espère.
T'imagines?
On l'espère.
Bon, donc on est d'accord, là c'est marrant. Alors moi j'ai donc mis Rossi 8e, donc d'accord. Je vais compléter ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Là c'est évident qu'il est pas champion du monde cette année. Donc c'est plus au niveau évidemment de ce que représente Valentino Rossi. Et c'est évident que si on devait apprendre là demain que Valentino Rossi prend sa retraite, c'est une nouvelle mondiale, tu vois, qui fait le tour du monde, voilà. Et pour la discipline, ce serait énormément important, dans le mauvais sens peut-être, mais le fait est que ce serait voilà quelque chose dont on parlerait pendant des jours et des jours. Donc Valentino Rossi continue d'avoir une aura qui dépasse largement le cadre de son sport.
Moi j'ai placé Stéphane Peter Hansel en 8e position.
Oui.
Monsieur Dakar, approche. C'est Monsieur Dakar, il sera bien là au départ du Dakar 2018. Rappelons que c'est lui qui a gagné le dernier Dakar en auto, au début de l'année. Monsieur Dakar, évidemment, 6 victoires en moto, 7 victoires en auto, doublé Peugeot 2016-2017. C'est une légende de son sport lui aussi, Stéphane Peter Hansel, et il sera bien à Lima le 6 janvier prochain. Il fallait lui rendre hommage également. C'était au tout début de l'année. Mais ça reste des champions de 2010.
Tout à fait, et tu as très bien fait. Je mets Daniel Ricciardo en 7e position. Il y a peut-être une prime à la Formule 1, c'est vrai, dans ce classement, parce que c'est quand même la discipline reine. Et Daniel Ricciardo m'a encore bluffé cette année avec des dépassements exceptionnels. Ouais. Et c'est évident que lui aussi est un champion du monde en puissance.
Ben moi, j'ai une sensibilité MotoGP, donc j'ai mis Andrea Dovizioso, moi, en 7e
place. Alors non, je ne l'ai pas mis, moi, dans top 10.
Ah, tu ne l'as pas mis.
Tu récompenses, effectivement.
L'âge de la maturité. Ouais, un pilote qui était, somme toute, quelconque et qui a fait une saison extraordinaire au guidon de sa Ducati. Il a lutté pour le titre de MotoGP jusqu'au dernier Grand Prix avec Marc Marquez. C'est quand même 6 victoires cette année. Énorme saison d'Andrea Dovizioso qui a gagné chez lui en Italie, en Catalogne, en Autriche, au Japon, en Malaisie. Ça a été le concurrent direct de Marc Marquez. Donc je voulais lui rendre hommage.
Tout à fait. 6e, enchaîne, tiens. Qui tu mets?
Sébastien Vettel.
Bon, je le mets 2e moi carrément.
Ah, tu le mets 2e.
Je continue de trouver Vettel, quadruple champion du monde de F1, comme évidemment un des deux meilleurs pilotes du monde.
Moi, je le mets 6e parce que sa fin de saison a été un petit peu ratée, malheureusement pour lui. C'est vrai qu'il nous a rendu l'année de Formule 1 assez intéressante avec des grosses performances dès le début de l'année. Il a lutté pour le titre longtemps avec Lewis Hamilton et il a surtout réussi à s'immiscer entre les deux pilotes Mercedes. Je l'ai mis à cette position, on l'a dit, c'est totalement subjectif. D'autres pilotes de Formule 1 sont devant lui et on pourra en parler.
J'ai mis Alonso 6e.
Alonso.
Comme Rossi, voilà, c'est pas, je peux pas te dire qu'il a été exceptionnel en Formule 1, mais quand il annonce qu'il fait Indianapolis, ça devient un événement mondial et on a suivi ses faits et gestes minute par minute. Donc c'est voilà quelqu'un qui va au-delà de son sport.
Allez, ton top 5 alors.
Verstappen 5e.
Eh ben pareil, Verstappen, l'avenir de la Formule 1.
Voilà, tout à fait. Marc Marquez 4e.
Johan Zarco, moi, 4e.
Oh, mais tu fais franco-français, mais je vais pas te le reprocher.
Eh oui, parce que pour moi, c'est ce qui a marqué l'année quand on est français, évidemment, qu'on a suivi le MotoGP. C'est celui qui permet aux Français de s'intéresser à cette discipline. Rappelons qu'il termine 6e du championnat du monde. C'est le meilleur rookie. Il fait 2 pôles, 3 podiums, 1 deuxième place en France. Johan Zarco a été exceptionnel et on rêve tous de le voir pilote numéro 1 chez Yamaha.
Bon, bah, écoute, en tout cas, moi, Marc Marquez, oui, le champion du monde à la fin, MotoGP. Donc, il est dans le top 4. D'un classement de ces niveaux-là. Je mets Sébastien Ogier 3e.
Moi, j'ai mis Marquez, du coup, en 3e position.
Je me doutais que t'allais avoir Marquez, bien sûr, si t'avais Dovizioso.
Évidemment.
Et comme moi, j'avais mis Vettel 2e, donc Sébastien Ogier, tu le mets 2.
Ogier 2e.
Voilà, évidemment. D'accord, c'est pas
2e, saison incroyable, on le rappelle, un nouveau défi chez M-Sport, une structure privée. Ça ne l'a pas empêché, malgré également le règlement qui ne l'avantageait pas, de finir une nouvelle fois champion du monde. Il est incroyable, Sébastien Ogier. Et je pense que le premier, on a le même.
C'est Hamilton.
Évidemment, Lewis Hamilton.
Voilà.
La donc, catégorie reine.
Oui,
le
là,
champion
cette
du monde.
Année, comment, se scandaliser
de pôle, voilà. Plus qu'un titre de Fangio.
En fait, plus que d'obtenir un 4e titre cette année, on s'aperçoit qu'il est dans l'histoire de la Formule 1, déjà dans le top 3, toute époque confondue. Donc voilà, ça veut énormément dire.
62 victoires en Grand Prix.
Ouais.
Incroyable.
Le nombre de pôles, tu l'as dit. Donc, Lewis Hamilton, donc, est élu à l'unanimité de Benoît Boutron et de moi-même comme le meilleur pilote 2017. Bah, c'était sympa ce petit exercice, Benoît, et on essaiera de refaire ça. En tout cas, je te remercie d'avoir été là pour cette dernier numéro régulier, comme je le dis, de la saison. Ce sera un best-of la semaine prochaine et j'espère que Jean-Christophe Drouet qui nous rejoint,
salut,
que j'ai mis comme le meilleur présentateur de l'intégral sport. Là, je vais me
faire.
C'est le seul, c'est pour ça.
Il sera là, lui. Il sera là le 24 décembre.
Lui, il sera là le 24 décembre. Bah, nous, ce sera un best-of.
Mais oui.
Ce sera un beau cadeau qu'on fera.
En tout cas, je suis pas du tout d'accord pour l'unanimité dans le studio, parce que moi, mon top 1 des pilotes, vous le voulez.
Oui. Bah,
pour moi, c'est François Gabart.
Ah.
Voilà. Ah, oui, c'est pas le même type de pilote, on est d'accord.
Il n'y a pas de moteur.
Oui.